Vous écoutez, on lit pour vous.
Des interdits à la tonne dans les cours d'école. Un texte de Gabrielle Duchesne et Ariane Lacourcière, paru le 28 septembre 2024 dans La Presse. Il ne faut pas tout surveiller. En janvier 2024, la Société canadienne de pédiatrie émettait un rapport choc dans lequel elle recommandait de favoriser le jeu risqué chez les enfants pour améliorer leur santé physique et pour leur apprendre à mieux gérer leur anxiété. Mais dans de nombreuses écoles du Québec, les interdits sont encore légion. Depuis la rentrée, la presse a recensé les codes de vie et les règlements de plus de 450 écoles primaires dans la province. Ce recensement non exhaustif, le Québec compte près de 1800 établissements primaires publics, permet de constater à quel point la liste des comportements proscrits est longue. Certains interdits reviennent souvent. Ainsi, on assiste dans les cours d'école à la mort d'un grand classique hivernal, la bataille de boules de neige. Lancer de la neige est illégal dans la majorité des établissements. Adieu aussi au roi de la montagne. Descendre ou monter plus d'une marche à la fois dans les escaliers. S'accrocher aux barres de ballon-poire. Jouer à la guerre. Jouer dans les flaques d'eau. Se chamailler. Se tenir debout sur une plaque de glace. Pire encore, y glisser sur les pieds. Ou botter un ballon ailleurs que dans un terrain de soccer sont aussi sur la liste noire de bien des écoles. Souvent, il est aussi impossible d'apporter des articles de sport et des jouets de la maison, même pour la récréation. D'autres règles sont plus insolites. À l'école Carousel de Sainte-Brigitte-des-Sceaux, sont à l'index les comportements suivants. Transporter un autre élève sur son dos. Chasser les insectes. Jouer avec les glands des arbres. Faire balancer une balançoire vide. Sauter en se balançant. Tourner sur soi-même ou se placer à cheval sur une balançoire. L'hiver, traîner un autre élève sur un tapis luge et glisser à reculons. À l'école Terre-Soleil de Sainte-Thérèse, les enfants doivent laisser au sol non seulement neige, glace, roche et sable, mais aussi les feuilles, les aiguilles, les branches d'arbres et les copeaux de bois. À l'école Bedford de Montréal, le règlement interdit aux élèves de porter quelqu'un sur leur dos ou d'encercler un enfant avec une corde à danser. La règle d'utilisation des traîneaux est étoffée. 2 élèves maximum, assis ou à genoux seulement. 2 élèves peuvent participer en poussant ou en tirant. Aucun élan pour y sauter n'est permis. Toujours dans la métropole, l'école Élan demande d'éviter les acrobaties dans la cour. En Outaouais, l'école de la Colline interdit de courir, de se poursuivre, de se bousculer ou de jouer à la tag sur les modules de jeu ou autour. On est dans une société où la prise de risque, c'est tolérance zéro. Une société de surprotection, dit Daniel Paquette, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, éthologue et spécialiste du développement de l'enfant. L'école, poursuit-il, a vraiment très peur d'être prise en défaut. Donc, ils vont éviter toute action qui peut possiblement mener à un accident, à une blessure, même si le risque est à peu près nul. Il s'agit qu'il y ait eu une fois un accident plus important et c'est suffisant pour l'interdire. Une sécurité nécessaire plutôt qu'à tout prix. Or, en janvier 2024, la Société canadienne de pédiatrie, SCP, publiait des recommandations pour favoriser la prise de risque dans le jeu. Selon le rapport, les occasions de se livrer aux jeux libres extérieurs et aux jeux risqués en particulier ont considérablement diminué ces dernières années, en partie parce que les mesures de sécurité ont visé à prévenir toutes les blessures liées aux jeux plutôt que seulement les blessures graves et fatales. Le rapport de la SCP souligne que de nombreuses organisations canadiennes réclament désormais une réorientation des stratégies pour assurer la sécurité nécessaire des enfants plutôt que leur sécurité à tout prix. La docteure Émilie Beaulieu, pédiatre au CHU de Québec, chercheuse en prévention des blessures à l'Université Laval, et membre du comité de prévention des blessures de la Société canadienne de pédiatrie, confirme. On veut redonner une certaine place au risque dans la vie des enfants. Donc, on essaye de s'éloigner d'une philosophie où on voulait protéger les enfants à tout prix. La médecin ne s'étonne pas que les recommandations de la SCP, très récentes, ne soient pas encore incluses dans les codes de vie de plusieurs écoles, qui incitent encore, presque partout, à jouer prudemment. Elle espère que les établissements scolaires poursuivront la réflexion à ce sujet. Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, note que l'avis des pédiatres montre les nombreux avantages à favoriser le jeu risqué chez les enfants. Elle reconnaît qu'il y a des parents surprotecteurs. Elle dit avoir aussi constaté, ces dernières années, une certaine frilosité des directions d'école par rapport au risque de blessure. Parce que ça amène par la porte d'en arrière les risques de poursuite. On pêche par excès de prudence pour éviter les accidents malencontreux. Mais est-ce que ça tient vraiment compte des besoins des enfants? Demande-t-elle. Ce n'est pas toujours simple. Les centres de services scolaires, CSS, contactés par la presse, évoquent principalement des enjeux de sécurité pour expliquer les mesures en place. Au sujet des balles de neige, par exemple, le CSS Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal, explique ceci. Le lançage de balles de neige peut provoquer des incidents désagréables ainsi que compromettre la sécurité des élèves. Cette mesure préventive est en place dans un souci de sécurité pour tous. Il y a la gestion du risque du nombre, explique le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost. On peut avoir 100, 200, 300 enfants dans la cour. Ce n'est pas la même gestion que pour une surveillante avec 10 enfants. Ce n'est pas toujours si simple de faire la différence entre danger et risque, ajoute M. Prévost, qui ne voit pas d'assouplissement sur le terrain en ce moment. Je vois même un certain resserrement, à tort ou à raison. La psychoéducatrice et auteure Solène Bourque connaît bien le réseau scolaire. Les enfants, croit-elle, sont trop restreints à l'école, d'un point de vue moteur, mais aussi de façon plus générale. Cela dit, elle estime qu'il est compliqué pour les écoles de permettre le jeu risqué. D'abord, dit-elle, il y a l'intégration des élèves à besoins particuliers dans les classes ordinaires et dans les écoles qui se retrouvent en même temps que les autres à la récréation et qui n'ont pas toujours la même conscience du risque que les autres. Ensuite, il y a la pression des parents. On est dans une réalité où on a un parent client de l'école. Le parent voudrait qu'on ait le même souci de son enfant que lui aurait à la maison. S'il se passe quelque chose, par exemple un enfant qui est blessé, les parents vont être dans le bureau de la direction le lendemain. Les enseignants vont être critiqués. On a des parents qui sont vraiment plus réactifs à toutes ces choses-là, ce qui fait en sorte que l'école n'a pas envie d'avoir une poursuite. Vous écoutez? Des interdits à la tonne dans les cours d'école. Un texte de Gabrielle Duchesne et Ariane Lacourcière, paru le 28 septembre 2024 dans La Presse. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, nous dit « On ne veut pas d'accident. Après, il y aura des recours contre l'école. Est-ce que c'est le bon réflexe ou pas de penser comme ça? Je ne peux pas juger. Mais on a des craintes. On ne veut pas se retrouver dans le trouble. » Puis, dit Solène Bourque, il y a le manque de personnel. Les jeux risqués, ça demande une supervision assez soutenue. Il y a des endroits qui permettent de faire des batailles de boules de neige. On s'entend que le ratio habituel, qui est à peu près d'un adulte pour 20 ou 25 enfants, c'est pas possible. C'est sûr qu'on va déraper. Ça prend un ratio beaucoup plus bas. Avec la pénurie de personnel, ce n'est pas toujours possible. On se retrouve parfois avec une cour d'école où il y a 200 élèves en même temps à la récréation et 3-4 profs pour superviser. Daniel Paquette n'est pas d'accord. C'est un faux fuyant. Il ne faut pas tout surveiller. Les enfants n'ont pas besoin d'être toujours vus par les gardiens, plaide-t-il. Il va plus loin. Il faudrait couper toutes ces règles-là et se permettre d'aller voir ce que ça va donner. C'est d'être capable d'accepter qu'il arrive de temps en temps des accidents, des blessures, et que ce n'est pas la fin du monde. Mieux gérer le risque, ça ne veut pas dire enlever tous les dangers possibles. C'est d'y aller en fonction de la probabilité. Si 60 % des enfants qui montent dans un arbre, ils tombent, je dirais, n'allez plus dans les arbres. Mais si ça n'arrive que dans 2 % des cas, je dirais, soyez prudents quand vous montez. Le jeu risqué, c'est quoi? Définition. Des formes passionnantes et stimulantes de jeux libres dont l'issue est incertaine et qui comporte une possibilité de blessure physique, selon la Société canadienne de pédiatrie. Exemple de jeu risqué. Source, Société canadienne de pédiatrie 2024. Grimper, sauter, être suspendu en hauteur. Faire du vélo à grande vitesse ou de la luge. Glisser, courir. Faire de la lutte, jouer à se bagarrer. Faire de l'escrime avec des bâtons. Percuter quelque chose ou quelqu'un, peut-être à répétition et pour le plaisir. Pourquoi le jeu risqué est-il important? Les enfants sont plus actifs, courent plus vite, ont un meilleur système cardiovasculaire en plus d'être plus confiants, moins stressés et moins anxieux. Ils sont habitués à être exposés à un certain niveau d'inconfort et c'est un prérequis pour affronter ses peurs et être capable de gérer son anxiété, dit la docteure Émilie Beaulieu, pédiatre au CHU de Québec et chercheuse en prévention des blessures à l'Université Laval. Dans les milieux où c'est appliqué, on observe une diminution de l'intimidation, que la résolution de conflits va augmenter, que les enfants sont plus capables de réguler leurs émotions, même leur attention en classe s'améliore. C'est sûr que les bénéfices sont immenses, ajoute la psychoéducatrice et auteure Solène Bourque. Oui, permettre le jeu risqué augmente le risque de blessures mineures chez les enfants. Mais pas le risque de blessures graves, note la docteure Beaulieu. Selon elle, les recommandations sur le jeu risqué devraient s'appliquer en tout contexte, tant à l'école qu'à la maison. Des jeux de bataille souhaitables. Le chamaillage et les jeux de bataille ont une grande valeur éducative, selon nos experts. Ils sont pourtant bannis dans presque toutes les écoles primaires. On sait très bien que les jeux ne dégénèrent en vraie violence que très rarement. Un jeu de bataille, c'est pas de la violence, affirme Daniel Paquette, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, éthologue et spécialiste du développement de l'enfant. Un jeu de guerre, c'est pas de la violence. La violence, c'est quand il y a un abus de pouvoir de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. La docteure Beaulieu note que le chamaillage, s'il ne mène pas à des blessures et qu'il est fait de manière consensuelle, amène plusieurs bénéfices, dont des aptitudes motrices et relationnelles. Et si je fais un coup que l'autre n'aime pas, je m'adapte. Dans le jeu risqué, on est beaucoup dans l'essai-erreur. Je saute à un certain niveau. Ça donne un résultat. Je tire des conclusions de ça. Je le refais en m'adaptant. Le concept, c'est que l'enfant gère son propre risque. C'est à travers les jeux de bataille que tu développes des amitiés, ajoute M. Paquette. Les petits garçons qui se bataillent le plus ensemble, c'est les plus grands amis du monde. Vous écoutez? Des interdits à la tonne dans les cours d'école. Un texte de Gabrielle Duchesne et Ariane Lacourcière, paru le 28 septembre 2024 dans La Presse. Parents inquiets, enfants craintifs. Les parents aujourd'hui sont plus protecteurs, plus présent, pas seulement dans le souci de leur enfant, mais présent physiquement. Les enfants ont beaucoup moins d'occasions d'explorer qu'avant. On est en train de faire des enfants qui, à 10, 12, 14 ans, ont perdu des habiletés motrices que les enfants de 7, 8 ans avaient il y a 30 ans, prévient Solène Bourque. Ce n'est pas normal! Madame Bourque donne l'exemple suivant pour départager les types de parents. On va dans un sentier en forêt. Le premier parent a tendance à marcher devant pour enlever toutes les branches et les cailloux que son enfant n'ait aucun risque de s'enfarger. L'autre parent va sensibiliser son enfant. « Fais attention, il y a une racine par terre. Tu risques de t'enfarger. Lève ton pied. » Le troisième va se dire « Il va s'enfarger, il va tomber, puis c'est comme ça qu'il va apprendre. » Il y a 30-40 ans, on était pas mal tous dans la troisième sphère. Alors que là, que les parents sont plus dans la première ou dans la deuxième. Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est pour le pire? Je pense qu'on est en train d'essayer de chercher le retour du balancier. C'est dans ce cadre qu'intervient la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie, note Mme Bourque, qui résume, c'est de dire « lâchez du lousse à vos enfants. Ils ont besoin d'expérimenter, ils ont besoin d'apprendre, parce que c'est rendu qu'ils ont peur de plein de choses. » On n'a jamais eu des taux d'anxiété aussi élevés chez les enfants. Tu te dis, bien voyons, ça n'a pas de bon sens qu'un enfant ait peur de faire du vélo, d'essayer des choses comme ça. alors que tous les enfants apprenaient à faire du vélo avant, souligne la psychoéducatrice. Des solutions pour des récréations plus libres. Si plusieurs écoles encadrent fermement le jeu dans leurs cours, d'autres sont plus permissives. À l'école primaire Marguerite Bourgeois, dans la municipalité des Cèdres, les élèves ont, par exemple, le droit de lancer de la neige, sur les cibles prévues à cet effet. À l'école Entrelacs, en Abitibi, il est permis d'apporter des articles de sport pour jouer à la récréation, alors que c'est interdit dans de nombreux établissements ailleurs. L'école de la Montée, à Gatineau, permet d'apporter des cloche-pieds, des diabolos, des ballons, des frisbees et des gants de baseball avec une balle de tennis. Jessica Morin-Néron, directrice de l'école de la Montée, nous dit « On trouve qu'il est important d'occuper les élèves. Plus il y a d'animation, moins il y a de conflits. » Pour éviter les dérapages, certaines zones sont identifiées et réservées à chaque type de jeu. « Nous avons le privilège d'avoir une grande cour », dit Mme Morin-Néron. La directrice ajoute que, pour certaines activités, il faut parfois ajouter des surveillants et qu'il peut y avoir une hausse des blessures mineures. Mais, dans l'ensemble, tout se passe bien. La docteure Émilie Beaulieu, pédiatre au CHU de Québec et chercheuse en prévention des blessures à l'Université Laval, note que dans certaines provinces de l'ouest du Canada, le jeu risqué est bien implanté dans les cours d'école et les parcs. On installe, par exemple, des billots de bois, des matériaux naturels, du sable, de vieux pneus, pour que les enfants construisent des choses, grimpent là-dessus, dit-elle. On les laisse aller, même si ça implique parfois un risque, parce qu'ils font parfois des choses abracadabrantes et qu'ils peuvent tomber. Les écoles ont plusieurs raisons de vouloir mettre en place des environnements de jeu restrictifs, dont la peur de poursuites civiles, reconnaît Mariana Brussoni, professeure au département de pédiatrie de l'Université de la Colombie-Britannique et directrice de Human Early Learning Partnership. Mais elle ne réalise pas toujours l'impact profond que ça peut avoir chez les enfants. Aux écoles qui veulent favoriser le jeu risqué, Mme Brussoni recommande de plonger doucement. Elle mentionne que, dans plusieurs établissements, il y a seulement quelques balançoires, un module de jeu qui ne peut accueillir tous les enfants, pas assez de ballons. Si bien que tu te retrouves à devoir gérer plus de conflits parce que les enfants se retrouvent à devoir se battre pour les rares ressources disponibles. Les enseignants doivent aussi imposer des règles, comme se balancer une minute à la fois. Pour corriger cette situation, des écoles implantent des « yes spaces », soit des espaces de liberté où les enfants sont, par exemple, autorisés à se lancer des balles de neige ou à se tirailler. Et, selon Mme Brussoni, l'idéal est de travailler avec les élèves pour déterminer les règles et non pas les leur imposer, qui peuvent s'appliquer dans ces espaces comme ne pas lancer de neige dans le visage ou ne pas mettre de roche dans les balles de neige. La docteure Leanne Franzblow, coordonnatrice en traumatologie au programme de prévention des blessures à l'Hôpital de Montréal pour enfants, estime que la plupart des études sur le jeu risqué ont été menées en garderie et donc qu'il manque un peu de référence pour savoir comment implanter le jeu non structuré dans les écoles où les élèves sont très nombreux. Mais ce concept de « yes space » semble être une bonne approche. Selon la docteur Franz Blow, il appartiendra toujours aux adultes de gérer les grands dangers. Comme déterminer si la neige est trop glacée pour être lancée. Mais elle soutient que le fait de permettre aux enfants de négocier entre eux des règles dans un jeu non structuré est bénéfique pour leur confiance et leur santé physique et sociale. C'était des interdits à la tonne dans les cours d'école. Un texte de Gabrielle Duchesne et Ariane Lacourcière paru le 28 septembre 2024 dans La Presse.
Consulat de France à Moncton, l'heure juste. Un texte de Michel Couture paru le 31 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, dans des circonstances que chacun peut avoir encore en mémoire, le ministre français des Affaires étrangères, alors aux responsabilités, M. Le Drian, annonçait que le consulat de France à Moncton ne fermerait pas en 2022, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé. 2 ans plus tard, il peut être utile de faire le point sur ce qu'il en est exactement. Sur la base des informations diffusées sur le site du consulat, la situation est la suivante. Il n'y a plus de consul en place depuis maintenant plus de 6 mois, situation sans précédent pour les 30 dernières années. Le poste d'attaché culturel, attribué à un coopérant appelé à changer tous les 18 mois, également en charge de la presse et de la communication, est aussi vacant, en cours de nomination. Le responsable du pôle économique qui a fait l'objet de plusieurs effets d'annonce n'a toujours pas été nommé. À venir. En fait, seul l'agent en charge des affaires consulaires, dont le rôle est principalement de conseil et suivi des dossiers, puisque visa et passeport sont désormais traités par le consulat de Montréal, est actuellement en place. 3 des principaux responsables du consulat sont donc manquants, dont le chef de poste et ceux qui intéressent principalement la communauté acadienne. Dans ces conditions, le consulat ressemble beaucoup à une coquille vide. C'était « Consulat de France à Moncton, l'heure juste », un texte de Michel Couture, paru le 31 mai 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.